Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'un vient de tirer les leçons de son quinquennat dans un livre publié chez Stock, sorti mercredi. L'autre, le bilan de sa première année sur les plateaux de télévision. Première séquence hier sur TF1 dans le JT de Jean-Pierre Pernaut en direct d'un village de l'Orne. Prochaine séquence, ce sera dimanche. Une séquence transmédia. Hollande-Macron, les leçons du pouvoir, autopsie contre anatomie. On en débat avec nos invités, l'historien Nicolas Rousselier, maître de conférence à Sciences Po, auteur de La force de gouverner. Bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, le politiste Frédéric Savicky, professeur à Paris 1, spécialiste de l'étude des partis politiques et notamment du Parti Socialiste, qui a signé L'épreuve du pouvoir est-elle vouée à être fatale au Parti Socialiste ? Retour sur le quinquennat de François Hollande dans un des derniers numéros de la revue Pouvoir. Bonjour Frédéric Savicky.
Bonjour.
Deux hommes, deux manières de gouverner. On écoute.
Tout le livre, c'est sur des leçons que je tire pour moi-même et que je veux livrer aux Français. Parce que j'ai exercé la responsabilité du pays pendant 5 ans dans une période extrêmement lourde. J'ai donc pu donner une conception des institutions, de la manière avec laquelle j'ai présidé la France, et revenir sur des décisions intérieures, extérieures, qui ont des conséquences encore aujourd'hui. Car j'ai cette conclusion, c'est qu'un président ne travaille pas pour lui-même, il travaille forcément pas simplement pour l'histoire, mais pour son successeur ou ses successeurs.
On est une maison. La France, c'est une maison. Le progrès qu'on a vécu durant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, il s'est arrêté pourquoi ? Parce que les fondamentaux sur lesquels on s'était construit ont bougé, ont changé.
On a l'impression que vous voulez tout changer trop vite.
Non.
Ce que disent les gens.
Mais je veux changer beaucoup de choses et pour moi il n'y a pas de répit. Mais demandez si aux gens qui sont au chômage si on va assez vite pour qu'ils retrouvent un emploi. Demandez si aux gens qui se disent on est bloqué dans nos quartiers, bloqué dans nos campagnes, nos enfants ils n'ont pas les mêmes moyens de réussir que les autres s'ils trouvent qu'on va trop vite, on va pas assez vite pour eux. Donc je voudrais simplement expliquer qu'on va dans le bon ordre. D'abord je fais ce que j'ai dit. Ça, peut-être on n'était plus habitués, mais tout ce que je fais, je l'ai dit, je l'ai expliqué. Ensuite je pense que notre pays depuis 30 ans au fond, n'a pas changé en profondeur les choses, c'est-à-dire il n'a pas refondé la maison, qui est la condition pour avoir 50 ans de progrès devant nous.
Alors l'un a tenu ses promesses, l'autre fait ce qu'il dit ou ce qu'il a dit. À travers ces deux extraits, on n'a pas de linguiste autour de la table, mais un historien et un politiste. Est-ce que quand même déjà vous voyez une différence de style particulière qui nous indiquerait un peu un mode de gouvernement particulier chez l'un et chez l'autre, Nicolas Rousselier ?
Je pense que la différence, elle éclate aux yeux parce que... Le titre même du livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir, peut effectivement s'entendre un peu comme une manière de dire « j'ai reçu des leçons pendant que j'étais au pouvoir ». Ça peut être une sorte d'acte freudien, c'est-à-dire il peut dire « j'ai reçu une belle leçon au pouvoir et j'en ai subi les conséquences ». Mais il dit aussi qu'il veut enseigner en quelque sorte, il veut en tirer la substantifique moelle, il veut expliquer aux gens les leçons qu'on peut tirer de cette expérience, comme s'il en avait été l'observateur tout en ayant été le principal acteur. Macron, c'est tout à fait différent, on peut dire que lui c'est un acteur dans l'action permanente, sans en être l'observateur et sans essayer de penser. Le vocabulaire de Macron, c'est toujours le vocabulaire de la réparation, du mécano, de la mécanique. Il faut que ça remarche, il faut remettre en marche, il faut prendre un tour de manivelle. Il le pense pour l'Élysée. Il a été secrétaire général adjoint, donc il sait quels étaient les dysfonctionnements de l'Élysée à l'époque de Hollande. Il remet en marche. Il y a les projets concernant la réforme du Parlement. Même chose, il a eu une expérience du Parlement assez malheureuse et il essaye de trouver les moyens de remettre en marche. Donc c'est un peu le mécano de la générale. Tandis que Hollande aurait été un journaliste, observateur, aussi acteur. Faut pas exagérer, il y avait bien les deux. Mais voilà, donc c'est un contraste saisissant.
Mais il y a une force de gouverner dans les deux ?
Oui, bien sûr. Moi, ce que j'appelle la force de gouverner, c'est un phénomène de plusieurs décennies, qui commence même déjà dans les années 30, qui veut dire à la fois qu'on renforce en même temps, historiquement, le pôle de Matignon, qui est apparu en 1935, et le pôle de l'Élysée. C'est la grande originalité française, c'est d'avoir renforcé l'exécutif avec deux pôles. Tandis que dans d'autres démocraties, on a le même phénomène d'exécutif qui se transforme, qui mute, mais avec le renforcement, par exemple, soit uniquement du Premier ministre en Angleterre, soit uniquement de la présidence aux États-Unis, même si aujourd'hui la force de la présidence aux États-Unis, on pourrait en discuter.
Juste, vous avez bien compris, vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien compris que Macron ne pensait pas finalement qu'il donnait des tours de manivelle et que ça l'empêchait d'avoir une vision, d'une pensée véritable, alors qu'on a au contraire l'impression parfois qu'il a malgré tout davantage d'outils intellectuels pour analyser les situations.
Je pense qu'il analyse, il est dans l'analyse extrêmement pratique, concrète, qui peut donner des résultats. Il n'a pas la distance que François Hollande avait, pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'on a souvent dit que François Hollande avait une distance, y compris marquée par son humour, qui crée une distance entre la fonction et la personne, pendant le temps où il était président. Et Hollande était à la fois le président et l'observateur de sa présidence. Je vois pas du tout Macron étant observateur de sa présidence. Il ne cesse, en tout cas en termes rhétoriques, il ne cesse de montrer qu'il est finalement dans une action permanente, continue, qui se justifie par elle-même.
Alors avant d'ouvrir la boîte à outils du macronisme, Frédéric Savicky, votre point de vue, votre avis sur cette intervention par livre interposé de François Hollande, ce droit d'inventaire qu'il dresse aujourd'hui entre fierté et regret, est-ce qu'il vous semble avoir tiré les bonnes leçons de son quinquennat? Parce que lui dit en tout cas qu'il les a tirées et que ce quinquennat d'ailleurs était plutôt une réussite. Il est assez satisfait de son bilan et il le dit fait ou chiffre à l'appui dès le début de cet ouvrage.
Écoutez, j'ai pas eu le temps, pour être honnête, de lire le livre, mais simplement de prendre connaissance des diverses interviews qu'il a données. On n'imagine pas François Hollande écrire un livre 6-8 mois après avoir été, non pas battu à l'élection, mais avoir renoncé à se présenter, donc dans une posture effectivement d'explication, un besoin d'explication de ce geste, et mettre en avant le fait qu'il aurait échoué totalement dans son quinquennat. On a une justification depuis très longtemps de François Hollande et d'une partie des socialistes qui est construite sur l'idée d'un problème de communication. Voilà, un problème de le fond de la politique menée était bonne, et d'ailleurs le fait que ce gouvernement actuel procède plutôt justement par coup de force plutôt que par négociation confirmerait en quelque sorte a posteriori par une espèce d'anticipation des échecs de la politique menée aujourd'hui la justesse de la position de François Hollande. Donc François Hollande est dans une espèce de, comment dire, wishful thinking, de penser que finalement l'histoire lui donnera en quelque sorte raison. Alors, et du coup ça lui permet effectivement d'écarter quand même tout un certain nombre de vraies difficultés à gouverner qu'il a eu, parce que ces difficultés, il les renvoie par exemple aux frondeurs, hein, alors même qu'effectivement il a d'une certaine façon lui mis en place un dispositif de gouvernement qui écartait effectivement une partie de sa majorité d'emblée, hein, de la participation au gouvernement, ce qui lui permet effectivement de faire l'impasse là-dessus. Ça lui permet aussi de faire l'impasse sur la politique européenne qu'il a choisi de mener, sur les choix, la philosophie des choix économiques qui ont été les siens. Voilà. Donc je pense qu'on ne pouvait pas attendre grand-chose d'autre de lui, d'une certaine façon, mais qu'en tout cas, les citoyens, et en particulier les gens de gauche, sont sans doute en droit d'attendre autre chose que ce simple plaidoyer pro domo, au fond.
En ouverture de ce livre, Les leçons du pouvoir, qui paraît chez Stock, il raconte sa dernière journée à l'Élysée et dit, comme un clin d'œil à ce qui se passe actuellement, « Je sais ce que je vais dire à mon successeur. Les faits sont là, ils parlent d'eux-mêmes. 5 ans plus tôt, la France était menacée par la spéculation et le décrochage, à la traîne de l'Union européenne à cause de ses déficits et sa compétitivité insuffisante. Aujourd'hui, les bases du redressement sont solides. La France est de nouveau respecté au prix d'un renoncement en aucune manière. Voilà, j'ai été fidèle à mes engagements et à mes promesses. Voilà ce qu'il dit. Vous parlez de ses difficultés au pouvoir. C'est le titre de l'article que vous avez signé, Frédéric Savicky, dans la revue Pouvoir. L'épreuve du pouvoir est-elle vouée à être fatale au Parti Socialiste? Et c'est vrai que c'est une question qu'on ne cesse de se poser depuis François Mitterrand. Est-ce qu'il y a une malédiction? Est-ce que le Parti Socialiste est inadapté structurellement aux responsabilités?
La question, en fait, trouve sa source dans le fait qu'à chaque fois que le Parti Socialiste, depuis 1980, a gagné des élections nationales, il a immédiatement perdu les élections qui suivaient. Alors, avec des conséquences très inégales, puisque en 86, il a perdu, en 88, il a regagné le pouvoir.
Pense bien sûr à Lionel Jospin.
Voilà, en 93, sévère défaite aux législatives, suivie d'une défaite présidentielle, et puis miracle en 97, c'était rapide 2002, quand même. Donc, effectivement, ça amène effectivement à se poser poser la question. Alors, il y a plein d'explications qui sont avancées. C'est-à-dire que l'explication classique de la, on pourrait dire, de la trahison, pour les gens, on pourrait dire, qui ont une lecture de gauche, et puis, pour ceux qui ont une lecture plus modérée, le refus de regarder la réalité en face, et donc, du coup, d'être en permanence entre deux chaises. Moi, je pense que cette explication, effectivement, a une certaine part de pertinence dans la mesure où les socialistes français ont, de fait, l'électorat du Parti Socialiste est hétérogène, et on l'a vu pour lors de l'élection d'Emmanuel Macron, une partie des électeurs de Hollande se sont reportés sur Emmanuel Macron dès le premier tour, une autre sur Mélenchon, sur Hamon, et donc il y a effectivement une difficulté à agréger ça. Mais en même temps, ça ne suffit pas, à mon avis, à expliquer le phénomène, en particulier la défaite qui vient de subir le PS en 2017, parce qu'elle est d'une ampleur sans commune mesure avec les défaites précédentes. Hein. Je ne veux pas revenir ici sur les détails de ça, et je pense que là, du coup, ça autorise à penser que la manière, pas simplement en quelque sorte ce qui a été fait, mais la manière de gouverner, la manière de faire fonctionner la majorité a effectivement une cause supplémentaire très forte dans l'explosion du Parti Socialiste. Et les choix effectivement gouvernementaux, la manière donc d'incarner aussi le rôle présidentiel, les relations avec les premiers ministres, la composition des gouvernements, la manière de fonctionner avec le Parlement ont effectivement fait, défaut. Hein. Ça a été très très mal organisé. Alors quelles sont les causes profondes de ça? J'ai pas le temps ici de les évoquer, mais je pense qu'effectivement le dispositif gouvernemental a une responsabilité très importante dans cette, disons, ampleur de la défaite.
Nicolas Rousselier, juste entre parenthèses, trahison, mot, terme qui a été employé par François Hollande à l'adresse d'Emmanuel Macron dans l'entretien qu'il accordait hier sur France Inter, mot qu'il a aussi utilisé dans la direction des frondeurs pour expliquer les divisions qui ont eu lieu, qui l'ont affaibli, qui lui ont nui durant son quinquennat dans cet inventaire qu'il dresse aujourd'hui dans les leçons du pouvoir. Nicolas Rousselier, Frédéric Savicky cite dans cet article qu'il consacre à la question de l'épreuve du pouvoir, Marcel Gaucher, qui revendique cette idée d'une incompatibilité entre la pensée socialiste et son exercice du pouvoir. Vous l'avez observé?
Non, pas exactement, parce qu'en fait, c'est un peu une histoire franco-française. Si on regarde l'histoire du socialisme, du travaillisme en Grande-Bretagne, de la social-démocratie allemande, de la social-démocratie scandinave, le socialisme européen, la social-démocratie est au contraire très identifiée au pouvoir, à des expériences de pouvoir extrêmement longues. Je crois qu'en Suède, ça a dû être pendant 4 décennies de suite des victoires du parti social-démocrate. En Allemagne, il y a eu des longues plages aussi de pouvoir social-démocrate. Donc là, c'est un petit peu le bout de la lorgnette franco-français, mais c'est aussi une histoire que les socialistes ont longtemps aimé se raconter. Ils ont longtemps aimé se raconter que le pouvoir qui peut vraiment changer le social, c'est un pouvoir par effraction, par la formule de la brèche, et que c'était des expériences malheureuses parce qu'elles duraient peu de temps, comme en 36, mais finalement, elles ont été frappantes, et leur faible durée était compensée par non seulement l'importance des réformes sociales, mais aussi par la mémoire. Donc, il faut bien voir qu'il y a aussi un discours historique, un discours mémoriel, que les socialistes aiment bien se raconter avec presque un peu de masochisme. Ce qui a changé par rapport à cet ancien discours socialiste, c'est que maintenant, il y a eu des longues périodes de pouvoir par un président socialiste comme François Mitterrand, ou même la période de Premier ministre Lionel Jospin. Et je dirais que là, maintenant, il y a un peu l'accumulation de deux choses. La première chose, on peut dire une forme de complexe, c'est que depuis le départ, effectivement, un parti socialiste est confronté à, disons, des réalités, des contraintes économiques qui viennent démentir partiellement les promesses du programme. Ça, c'est une première chose, ça a toujours existé. Et là, maintenant, la deuxième chose, on l'a vu avec François Hollande, c'est un deuxième complexe, c'est que les socialistes peuvent aussi avoir le complexe d'un pouvoir type 5e République, très présidentialiste, qui leur est imposé, que dans leur programme, ils ne cessent de critiquer, puisque jusque dans les années 2000, il y a toujours un paragraphe dans le programme socialiste où on nous dit il faut redresser le Parlement par rapport à la présidence. Mmh. Et finalement, ils n'en font rien, mais ils n'aiment pas les institutions dans lesquelles ils se trouvent. Et François Hollande, ce qui l'a caractérisé, c'était de dire je fais une présidence normale, pas simplement pour le style, mais je fais une présidence normale pour rééquilibrer les institutions. Et il y a une sorte de, si vous voulez, de surmoi républicain républicain au sens république parlementaire, qui fait qu'on a des présidents qui agissent, sont obligatoirement dans la contrainte, et en même temps continuent cette petite musique critique par rapport aux institutions dans lesquelles ils sont. Et ça, Macron ne l'a pas du tout. Macron n'a absolument pas de scrupules ou de retenue dans la pratique présidentialiste de la Ve République.
Une question d'Antoine, merci.
Oui, même il en rajoute un petit peu.
Il surjoue parfois.
Sortons du franco-français, puisque vous le proposez, mais est-ce que ce n'est pas l'ensemble de la social-démocratie en Europe qui est en train de perdre pied, tout simplement, parce qu'elle n'a plus suffisamment de différences à opposer à une politique libérale, disons, un peu aménagée, que le choix politique a disparu. C'est ce qu'on dit toujours, mais est-ce que c'est pas quand même la réalité en Europe?
Frédéric Savicky.
Oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a un problème général qui tient à la fois, effectivement, à la contrainte que représentent aujourd'hui les traités européens et qui limite considérablement les capacités d'action économique, en particulier des gouvernements, quoi qu'ils en disent. On le voit bien aujourd'hui avec la réforme de la SNCF, on est obligé de faire comme si, effectivement, c'était quelque chose qui serait d'un choix du président, alors qu'en fait, effectivement, il s'agit bien, en partie en tout cas, d'adapter ou d'appliquer des directives européennes. Mais non, dans la mesure, pas totalement, parce que dans la mesure où, l'échec ou le déclin ou le discrédit des social-démocraties en Europe, elles n'ont pas les mêmes ampleurs. C'est pour ça que je pense que dans le cas, si on réfléchit effectivement...
Où ça résiste ?
On parlait de la Suède, mais même si vous comparez évidemment à la social-démocratie allemande, c'est encore un parti de 450 000 adhérents qui fait 20, 22, 23% aux élections, qui préside encore des lenders importants en Allemagne, qui a encore des liens avec les organisations syndicales. Le problème du SPD n'est pas simplement un problème de concurrence à droite, mais aussi de concurrence à gauche, avec Die Linke et les Verts. Et quand vous regardez effectivement ce que représente cet électorat-là en Allemagne, l'électorat de gauche ou de centre-gauche, il est plus important qu'en France. En France, vous avez une partie aussi, la composante Macron, qui est composée d'électeurs ou de gens qui viennent du Parti Socialiste. C'est pas quelque chose qui est extérieur à ce milieu. Donc le problème, il est plutôt l'agrégation, on pourrait dire, dans une famille politique social-démocrate, de gens qui vont effectivement, on pourrait dire, d'une aile gauche qui n'est pas révolutionnaire, on n'en est plus là, à un centre-gauche. Et c'est comment réussir à agréger tout ça. Il y a des partis sociaux-démocrates qui y parviennent mieux que d'autres. C'est là aussi que les règles du jeu institutionnel sont très importantes. L'élection présidentielle, le scrutin majoritaire à deux tours. Si Macron aujourd'hui peut être un président jupitérien ou bonapartiste, c'est qu'il a à sa main le Parlement. Une majorité absolue de députés inexpérimentés qui lui doivent complètement son élection. Donc ce mécanisme-là, effectivement, les socialistes en ont profité, et comme d'ailleurs la droite en 2007 puis en 2012, mais c'est ça qui garantit en quelque sorte le fonctionnement de la présidentialisation. Je reviens sur ce que disait Nicolas il y a un instant sur le fait que Hollande a subi les institutions de la Ve République, on pourrait dire quinquennale. Oui, mais sans jamais non plus choisir de l'autre côté. C'est-à-dire que si on veut avoir une présidence, on pourrait dire, de type parlementaire, il faut évidemment avoir une majorité solide. C'est-à-dire qu'il faut gouverner avec son parti. Or, François Hollande, c'est mon explication, n'a eu de cesse que de gouverner contre son parti. En partie à cause du mécanisme des primaires, mais aussi ensuite en raison des choix de Premier ministre qu'il a fait et de composition gouvernementale et d'orientation politique qu'il a donné. On ne peut bien gouverner, on pourrait dire, sous une forme de présidence un peu plus normale et un peu plus parlementaire que si on gouverne sur trois jambes. Le Parlement, le parti, le président. Or, François Hollande, le paradoxe, c'est qu'il a gouverné comme un président, pour dire un peu comme Mitterrand, à certains égards, ou comme Sarkozy, sans pour autant, effectivement, pour dire, assumer cette posture de suprématie, c'est-à-dire en voulant préserver des relations cordiales avec son Premier ministre, en laissant les ministres gouverner, etc. Ce qui est d'une certaine façon une erreur, parce qu'on ne peut pas faire, les deux. C'est-à-dire, on gouverne de façon collégiale et on l'assume, ou effectivement, et est-ce qu'on peut gouverner la Ve République d'aujourd'hui de façon collégiale? Ça, c'est une vraie question.
Alors, le Parti Socialiste a-t-il, lui, appris de ses erreurs? C'était le week-end dernier, le 78e congrès du Parti socialiste qui a entériné l'élection d'un nouveau premier secrétaire, Olivier Faure. Qu'est devenu le socialisme après 5 années d'hollandisme, après ce quinquennat stigmate, comme vous l'écrivez, Frédéric Savicky, pour reprendre la critique qui lui est adressée par une partie de ses troupes qui l'ont déserté pour rejoindre le mouvement Parti Génération de Benoît Hamon. Est-ce que le Parti socialiste, pour vous, produit encore des idées neuves? Ou est-ce que c'est un vieux parti qui ne sait plus ou qui ne parvient plus à penser l'avenir?
Je ne sais pas si les partis politiques, que ce soit le Parti socialiste ou un autre, ont été vraiment des lieux de production d'idées neuves. Les partis politiques peuvent, en quelque sorte, agréger des idées produites ailleurs, les mettre en forme, produire, on pourrait dire, un discours qui agrège un certain nombre de propositions. Mais je ne suis pas absolument certain qu'il y ait eu un temps béni où les partis étaient des producteurs d'idées neuves. Bon. Au moins étaient-ils, on pourrait dire, des lieux où se coproduisaient, si on peut dire, des idées en collaboration, en concertation avec des intellectuels, des organisations, etc. Et c'est vrai que le Parti Socialiste ne produit plus d'idées depuis longtemps en tant que parti. Néanmoins, à travers des think tanks, à travers des activités de courant, on sait que le Parti Socialiste les socialistes n'ont jamais cessé de produire du texte, de produire de la réflexion, simplement, effectivement, de façon totalement désordonnée, et sur des positions parfois, alors totalement, on pourrait dire, inconciliables, sans que jamais personne ne concilie. C'est ça le problème du Parti Socialiste, je dirais, tel qu'il était jusqu'en 2017, c'est-à-dire de ne pas avoir été un lieu capable, en quelque sorte, de coordonner et puis ensuite effectivement de produire un minimum de programmes homogènes. Et donc c'est là aussi les primaires ont accéléré le mouvement pourrait dire d'éclatement de cette production d'idées, chacun pourrait en quelque sorte développer sa propre stratégie dans son coin, et c'est effectivement ça, à mon avis, qui est le cœur du problème et aussi le cœur du défi pour ce qui reste du Parti Socialiste s'ils veulent redevenir quelque chose qui parle d'une seule voix. C'est cette capacité effectivement aujourd'hui à être un lieu, en quelque sorte, non pas simplement de production d'idées nouvelles, mais d'être un lieu d'agrégation de courants et d'idées diverses qui fabriquent quelque chose qui serait tout un programme politique.
Les leçons du pouvoir, François Hollande, Emmanuel Macron, on en parle avec nos deux invités, l'historien Nicolas Rousselier et le politiste Frédéric Savicky, jusqu'à 13h30. Pour l'heure, il est presque 13h20 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Jespère.
On s'est demandé si la social-démocratie était parvenue ou pas à résister à l'épreuve du pouvoir. Est-ce que le macronisme, de son côté, aura plus de chances? Est-ce qu'Emmanuel Macron est, lui, déjà parvenu à tourner la page du quinquennat Hollande? Au cœur de la stratégie macronienne, la vitesse, Nicolas Rousselier, interrogé à ce sujet hier, Emmanuel Macron a affirmé « Demandez aux gens qui sont au chômage si on va trop vite. Je ne vais pas trop vite dans mes réformes, c'est le monde qui va trop vite. La France doit s'adapter à ce monde en mouvement. Contre l'effet stagnation, aller vite, accumuler les réformes par strates, tout en même temps, c'est une manière nouvelle, là, de gouverner, qui va profiter aux locataires de l'Élysée. »
Oui, c'est assez nouveau. Moi, je dirais que peut-être que hier, d'ailleurs, il parlait trop vite dans son interview, mais ça, c'est juste pour la forme. Je crois, si vous voulez, que Macron, il est le premier président de la nouvelle Ve République. C'est-à-dire la nouvelle Ve République qui s'est mise en place, pas du jour au lendemain, mais progressivement depuis le début des années 2000, avec notamment le quinquennat, mais surtout cette absorption, exactement comme le boa qui absorbe un lapin, l'absorption de l'élection parlementaire par l'élection présidentielle. Il est le premier parce que Sarkozy, c'était encore un peu neuf, ce système, et François Hollande était justement, comme le disait Frédéric Savicky, était aussi très dépendant de la situation de son parti politique. Donc Macron est le premier de cette nouvelle Ve République parce que lui, le mouvement, il l'a créé en même temps que sa candidature. Donc, la candidature fait toute l'entièreté de l'exercice du pouvoir. Parce que sa candidature, il ne le cesse de le dire, il a dit des choses, il a annoncé des choses, il a proposé une feuille de route, et ensuite, cette feuille de route, il l'applique. Donc, si vous voulez, je dirais que Macron, le macronisme, il est dans l'exercice pur du pouvoir. Il n'a pas d'autre chose à proposer que de remettre en marche les différentes instances ou les différents organismes. Donc, c'est presque un pur pouvoir qui ne se donne pas de limites, par exemple, par rapport à une doctrine ancienne. S'il fait une loi sur le marché du travail, il ne cherche pas à la compenser par du social. alors que la loi El Khomri essayait de marcher sur les deux jambes, même si ça pouvait être rhétorique. Donc il n'a pas de boulet venant d'une tradition politique ou idéologique. Il n'a pas le boulet d'un parti à gérer. Dieu sait que c'est un boulet de gérer le Parti Socialiste à l'époque des années 2000 ou même avant, parce qu'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs traditions, il y a des éléphants. Donc lui, il n'a pas à cornaquer des éléphants sans jamais y arriver. Et de ce point de vue-là, il est libre. Mais, en fait, moi je me demande si cette nouvelle Ve République, en accentuant le présidentialisme, n'est pas aussi en train de créer la crise du présidentialisme. Pourquoi ? Parce que ce système de nouveau présidentialisme met aussi en première ligne directement le président. Le président est le seul élu. Derrière, il a un parti qui n'a de raison d'être que d'être le parti qui soutient le président. On sort de la boîte un Premier ministre que personne ne connaît, des ministres qui sont plus ou moins bons, qu'on ne connaissait pas. Donc, les critiques se cristallisent immédiatement sur le président. Et il y a déjà un changement par rapport à ce que Macron espérait, c'est le rythme qui s'accélère de ses prises de parole. C'est-à-dire qu'il avait annoncé qu'il ne serait pas un président bavard, et bien finalement...
Mais là, cette semaine, il devait quand même intervenir. Semaine, c'est carrément ça aurait été délicat de ne pas intervenir.
Oui, mais il intervient deux ou trois fois.
Est-ce qu'il y a un risque de durcissement, peut-être, face à ce péril, précisément, d'être en première ligne, et que, oui. qui va l'amener à devoir... Voilà. Maîtriser davantage.
C'est ça, dans cette nouvelle Ve République, tout se cristallise sur le président beaucoup plus qu'auparavant. Donc l'idée même d'un fusible me semble ne plus exister avec le Premier ministre, même s'il en changeait. Et puis, au fond, ce président venu de nulle part ne peut que, si vous voulez, concentrer les critiques à la fois sur sa personne, sur ses résultats. Donc même si certains résultats sont déjà bons d'un point de vue, disons, strictement économique, après, il ne peut pas se réfugier ni derrière un parti politique, ni derrière un système à trois pieds avec le Parlement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle Ve République ne peut offrir maintenant, au fond, qu'un président... qui a simplement son mandat pour réussir.
Frédéric Savicky, en cas de pépin, le roi est nu, c'est quand même risqué aussi. Quel autre danger dans cet élan de verticalité? Est-ce qu'il n'y a pas aussi risque que l'exécutif se déconnecte de plus en plus
de sa base citoyenne? Il y a un livre célèbre en sociologie de l'action publique, qui est celui de Michel Crozier, qui s'appelle « On ne change pas la société par décret ». Et si effectivement on se retrouve dans la situation où on a un président qui peut se passer très très largement des corps intermédiaires, du Parlement pour élaborer ses réformes. Le risque, effectivement, c'est qu'on a des réformes prises à la va-vite, dont les effets seront souvent d'ailleurs inverses ou contraires de ceux qui sont attendus. Je suis en train de le vivre en tant qu'universitaire dans mon quotidien, c'est-à-dire l'impact de la réforme qui est actuellement mise en œuvre dans l'université. On en mesurera les effets probablement que l'année prochaine ou dans deux ans, mais il n'aura sûrement pas les effets qu'attendus. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, beaucoup d'étudiants qui risquent de se retrouver sans affectation ou affectés de façon un peu n'importe comment. On a sans doute, j'irais dans les... Le fait que ce gouvernement s'appuie quand même beaucoup de fait sur la haute administration, qui avait des réformes déjà prêtes à l'emploi, sans être négociées, aboutit quand même à une vision très souvent... économiste des choses, la mobilisation actuelle dans les tribunaux des avocats, la décision de supprimer comme ça des tribunaux d'instance pour les centraliser. On a déjà vu ça, certes, sous Sarkozy, mais on a vu aussi que Sarkozy avait très largement, après coup, renégocié cette carte, parce qu'il y a les élus qui faisaient remonter. Alors que là, on a effectivement une espèce de gouvernement couperet, et ça ne peut que faire naître effectivement des effets pervers.
Effets pervers, contestation, mais de l'autre côté, discours dominant, je fais ça, il faut s'adapter. C'est-à-dire que le monde va vite et moi je m'adapte à ce qui se passe. Donc il n'y a pas tellement de résistance à opposer, a priori, dans ce discours, sur le discours de l'adaptation. Question subsidiaire, est-ce que la gauche ne devrait pas se reposer la question de savoir s'il ne faut pas avoir un discours de résistance par rapport à l'adaptation plutôt que de créer des comités pour savoir s'il faut encore trouver un consensus?
Oui, c'est cette adaptation permanente. On peut vraiment prendre la métaphore de en marche ou en courant, en sprintant à la lettre. Et ça creuse, je pense, ce que je disais. Je pense que ça creuse, en fait, la crise du présidentialisme. Parce que la force de gouverner, la force du président, dans la Ve République, elle a été historiquement associée à, d'un côté, on renforce l'exécutif, au prix de la baisse du Parlement, mais on le fait pour la force de la nation, la force du pays, le développement, les Trente Glorieuses. Donc vous aviez une consonance cognitive, je jargonne, entre la force de l'exécutif, première Ve République, et au fond, la force, la dynamique de la nation, de son économie et de sa protection sociale. Aujourd'hui, la contradiction cognitive de Macron, c'est que il renforce le président, son rôle par rapport au Premier ministre, il reconfigure les cabinets, il reconfigure le lien avec la haute administration, il remet en marche, au fond, la machine du gouvernement, mais au profit de quoi ? De la patrie, c'est ce qu'il dit, il a un discours néo-patriotique, mais en réalité, on le voit dans le concret sur chaque projet, c'est une force du président qui se met au service d'un redéploiement, pour rester poli, d'un déclin probablement du rôle de l'État dans l'économie, de l'État dans la société.
En somme, il a quand même, Emmanuel Macron, pour vous, Nicolas Rousselier, tiré les leçons des dysfonctionnements du quinquennat Hollande, mais il n'a pas encore tiré les leçons de son propre exercice du pouvoir.
Il n'a pas encore dévoilé, le fera-t-il, je n'en sais rien, il n'a pas dévoilé l'horizon de sa remise en marche.
Il faudrait que l'État, finalement, l'administration, tout ça disparaisse pour que la France survive dans la mondialisation. Il y a une c'est ça le paradoxe dont vous parliez.
Oui, il y a le terme qui existe déjà bien avant Macron, le terme d'État stratège. Mais finalement, on a beaucoup de mal à le définir. Est-ce que c'est un mot qui cache le recul de l'État et de son rôle et de sa signification ? Donc ça, c'est la vraie contradiction en profondeur. On est dans la force de gouverner, on est dans ce que j'appelle la démocratie exécutive, et en même temps, dans un autre trend, un autre courant historique, on est dans le recul des États.
Frédéric Savicki, le mot de la fin.
Oui, bah, dans 4 ans, quand Emmanuel Macron écrira peut-être lui aussi un livre pour faire le bilan de son quinquennat, j'imagine assez bien qu'il nous dise qu'il avait un projet formidable et que les Français, décidément, n'étaient pas prêts et que ce pays est trop conservateur et donc pas adapté à son génie, à son talent.
Voilà. Et qui sera président alors après ?
Donc c'est un social,
Je ne me guérisserai
pas. Un socialiste.
Ah, pas forcément.
Et Emmanuel Macron est un social-démocrate comme les autres au pouvoir aujourd'hui ?
Ah non.
Non. D'accord. Donc là, c'est plus la social-démocratie avec lui qui est à l'épreuve.
Dans social-démocratie, il y a aussi démocratie. Hein. C'est-à-dire que faudrait quand même pas l'oublier. Il y a aussi la fabrique du social par la démocratie, par la négociation.
Merci beaucoup à tous les deux. La force de gouverner, je rappelle, c'est le titre de votre ouvrage, Nicolas Rousselier. Le pouvoir exécutif en France du 19e siècle au 21e siècle, avec un chapitre probablement à ajouter à la fin du quinquennat Macron. Pour vous, ça, c'est sûr. Merci à vous Frédéric Savicki et à toute l'équipe de La Grande Table pour cette belle semaine. Claire Maillot et Clémence Marie à la programmation, Henri Leblanc et Maxime Morin à la préparation, avec l'aide précieuse, très précieuse, d'Émile Boutelier et de Liana Valken. À la réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Jean Guilin-Meige. Quand une grande table se referme, une autre s'ouvre immédiatement sur franceculture.fr, où vous pouvez assurément réécouter l'émission, vous abonner au podcast ou nous écrire. Je vous souhaite un très très bon week-end.